France Inter,
franceinter.com. J'ai mes sources.
Nicolas Demorand,
Colombe Schneck.
C'est le 7-10.
Bonjour Colombe.
Bonjour Nicolas.
Raconter des histoires, des stories, comme disent les Américains, c'est aussi l'une des ambitions du journalisme. Et qui le fait mieux que Marc Kravetz dans ses Portraits du jour tous les matins sur France Culture à 8h55 en racontant une histoire dénichée dans la presse internationale. Ces 150 histoires pour un tour du monde sont publiées aux éditions du Sonneur. Marc Kravetz est votre invité, Colombe, ce matin dans J'ai mes sources. Mais on commence avec le chiffre du jour.
13,2 millions de téléspectateurs pour M6 mardi, un record d'audience historique pour la chaîne. L'Institut IACAS estime à 5,5 millions d'euros le chiffre d'affaires publicitaire pour la chaîne privée pour la seule soirée de mardi. Mais cela ne sera pas suffisant pour rentabiliser l'achat des droits télé du match de l'Euro. M6 et TF1 ont déboursé 50 millions d'euros. Avec l'élimination de la France, IACAS estime que les chaînes devraient à peine rentabiliser la moitié de cette somme. On essaie de comprendre le succès quand même du foot à la télé avec les invités de ce matin, mais d'abord Marc Kravetz. Des histoires vraies qui à chaque fois sonnent comme le début d'un roman. Elles sont dénichées tous les jours par Marc Kravetz dans la presse internationale. Bonjour Marc Kravetz.
Oui, bonjour Colombe.
Depuis le 30 août 2004 à 8h55, vous racontez une histoire. Elles sont aujourd'hui éditées, réunies dans Portrait du jour, 150 histoires pour un tour du monde, publiées aux éditions du Sonneur. Un genre que l'on retrouve rarement dans la presse française, la tradition de la story est anglo-saxonne, Marc Kravetz.
On le trouve rarement et je le regrette. L'idée, elle est toute simple. D'ailleurs, on va pouvoir en reparler avec vos interlocuteurs sur le sport parce que, précisément, les journaux sportifs sont des journaux inhabituels. Alors, en France, nous n'avons qu'un seul quotidien. Dans d'autres pays, il y en a plus. Qui produisent leurs histoires. Et produire une histoire, c'est pour ça que c'est l'école anglo-saxonne du journalisme, c'est pas bâtonner, comme on dit dans notre jargon, des dépêches d'agence qui reviennent à peu près toutes les mêmes, comme ça, de journaux en journaux. Je ne vise évidemment personne. C'est, en effet, aller trouver, en se posant des questions élémentaires, qui, quoi, quand, où, comment, le fil narratif qui fait que les gens ont quand même le sentiment que quand on leur raconte quelque chose, où ça aurait pu leur arriver, en tout cas, ça leur permet d'entrer dans l'histoire à travers ce qui est de plus évident, c'est ce qui arrive aux gens. C'est pas en marge de l'actualité, c'est pas pour sortir des ça pourrait, c'est pas pour sortir des anecdotes de l'actualité, c'est simplement pour dire que, pour l'essentiel, l'actualité, c'est d'abord ce qui se passe pour des gens qu'on appelle par ailleurs des anonymes, parce qu'ils n'ont pas un nom à répétition. Ils ont un nom qui n'apparaît malheureusement qu'une fois. Ce qu'on avait essayé avec ce livre, d'ailleurs, avec la petite équipe là, des éditions du Sonneur, c'était précisément de leur donner une suite. Ce qui est l'une des choses les plus frustrantes dans les journaux, c'est qu'un jour, on vous parle d'une histoire terrible de quelqu'un, et puis ensuite, vous ne savez jamais ce qui s'est passé. Alors, on essayait de savoir aussi ce qui s'était passé après.
Alors, j'en ai sélectionné, il y en a beaucoup, j'en ai sélectionné certaines qui avaient un rapport avec les médias. Elles ne sont pas du tout représentatives des histoires que vous racontez. Mais par exemple, vous racontez une histoire de suite, c'est l'histoire du bébé 81. Bébé 81, c'est ce bébé qui a été retrouvé après le tsunami au Sri Lanka. Vous avez raconté son histoire. 9 familles le réclamaient. Ça a fait la une de tous les médias. Les parents ont été invités ensuite par la télévision américaine. Vous racontez la véritable histoire et là, une invention médiatique.
Disons que invention est peut-être beaucoup dire. Il est vrai qu'un bébé a été perdu dans le désastre, un bébé tout seul, qu'il a été récupéré par des gens. C'était un peu miraculeux, ce bébé qui je sais pas, il était accroché à un arbre, je me souviens plus du détail. Il est vrai aussi que des parents ont perdu leur bébé, mais pas forcément à très grande distance, mais il s'est passé tellement de choses horribles en même temps que les uns n'ont pas retrouvé l'autre. En revanche, ce qui a été inventé dans des circonstances compliquées, donc on ne va pas rentrer dedans, mais qui malheureusement photographie assez bien le fonctionnement des grands médias, a été inventé une dramaturgie autour de ça. En fait, l'affaire aurait pu se résoudre très vite. Il est apparu que plusieurs familles étaient évidemment à la recherche d'un enfant perdu, et d'ailleurs que plusieurs enfants n'étaient pas eux à la recherche, ils n'avaient pas l'âge, mais qu'on cherchait pour eux des parents disparus aussi. Et que dans ce cas, on a fabriqué de toutes pièces, d'une certaine façon, cette histoire de mère qui se battait dans un hôpital. Enfin, on a l'impression que c'est le jugement de Salomon, quoi. On va se l'arracher, etc. Il a fallu des tests ADN pour trancher. Et il est apparu... mais c'est aussi un journaliste, d'ailleurs, d'une grande agence, ce qu'on appelle un localier, qui a refait entièrement l'enquête pour démontrer que, dans ce cas, les médias avaient, grosso modo, inventé enfin, inventé la dramaturgie de cette histoire.
Comment vous les trouvez, ces histoires, Marc Cravette? Comment vous les cherchez, ces gens?
Nicolas Demorand, si je peux me permettre, vous n'êtes pas le plus mal placé pour savoir comment ça se passe, puisque nous avons travaillé ensemble, et que d'ailleurs ce portrait du jour est né quand vous étiez l'animateur des Matins de France Culture. Donc nous travaillions ensemble avant sur une revue de presse. Alors une revue de presse qui n'était pas une revue de presse comme celle qu'on entend tous les jours. Grosso modo, la mission était de chercher à travers la presse internationale, de chercher des stories justement. Et puis par essai, par erreur, peu à peu, on s'est dit, au fond, il faut en chercher une. Ça ne veut rien dire de lire 10 journaux et de dire voilà qui dit quoi de que. Et surtout d'essayer de revenir à chaque fois à des histoires précises, datées. Et au fond, je ne suis pas sûr que ce n'est pas vous qui ayez eu d'ailleurs un jour la bonne idée de dire il faudrait que ça soit. Ça serait mieux si c'était personnalisé. Pourquoi pas un portrait chaque jour?
Mais voilà, vous avez inventé tout un système, je dirais, pour.
Les récupérer.
Oui, pour les récupérer sur Internet. Et pour essayer de sortir justement de ce qu'est le fil de dépêche classique des agences avec une information uniforme.
Écoutez, l'idée, elle est, si j'ose dire, très simple. Elle est un peu plus compliquée à gérer au jour le jour. Enfin, à la nuit, parce que ça se passe surtout la nuit, toutes ces choses-là. J'ai fixé une règle au fur et à mesure que j'appelle la règle des trois sources autonomes. Alors, ça veut dire quoi, trois sources autonomes? Ça fait un peu technique, là, vu de loin. Ça veut dire simplement que quand vous trouvez une bonne histoire, ça peut être dans une agence de presse, ça peut être sur mon site préféré d'information générale, disons, qui est le site de la BBC, que je trouve, évidemment, je le dis d'ailleurs, le meilleur du monde. Sauf qu'une fois qu'on a ça, éventuellement, le sujet, donc éventuellement on peut... À ce moment-là, il faut fouiller en allant de plus en plus profond, de plus en plus bas, là où l'Internet permet d'aller en tout cas, y compris avec des journaux locaux, des blogs locaux, selon les cas. L'idée des trois sources indépendantes, c'est qu'il doit y avoir trois types d'apports, journalistiques disons, qui ne communiquent pas entre eux. C'est-à-dire que ce n'est pas la même dépêche qui a été recopiée et avec, en changeant les adjectifs. Alors c'est là que les choses, en effet, se compliquent un peu dans le temps de recherche.
Oui, pour que l'histoire ne soit pas inventée comme l'histoire de Bébé 81.
D'une part, et aussi pour avoir très souvent des détails, des citations, des choses qui sont plus proches des personnages que l'on raconte. Et on a besoin des deux, parce que quand vous allez dans des... Vous savez qu'aujourd'hui, c'est probablement l'un des phénomènes les plus importants dans l'histoire de la presse internationale, dans les 25 dernières années. Vous avez dans des grands pays, des journaux anglophones qui sont des journaux originaux. Vous avez depuis très longtemps eu des journaux anglophones qui étaient des traductions, des compilations de presse dans des langues auxquelles tout le monde n'a pas accès. Mais quand je pense à des pays comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme d'ailleurs la plupart des grands pays d'ex-colonisation anglo-saxonne en Afrique, malheureusement on ne peut pas en dire autant avec la presse francophone, il y a des bons journaux mais enfin ils ne sont pas du même niveau. L'Inde, c'est une mine extraordinaire. Tous les grands journaux de l'Inde, sauf quelques journaux populaires en hindi, sont en anglais. Et donc, à travers ça, vous avez évidemment une richesse incroyable de faits, de recherche des faits. Et comme tous ces gens sont plutôt de formation anglo-saxonne, où on fait leurs études soit en Grande-Bretagne, soit aux États-Unis, leurs études de journalisme, ils ont cette même discipline de la story, c'est-à-dire de la narration. Et donc, évidemment... Alors, le défaut de tout cela, c'est qu'ils ont en effet tout ce qu'il faut pour que nous cherchions l'histoire. Le défaut de tout ça, c'est qu'ils s'adressent à un public qui sait de quoi on parle, dont les références sont évidentes. Elles ne le sont pas pour nous. Donc, il faut avoir la contrepartie des agences internationales ou des grands sites d'information de type de la BBC pour au moins tout comprendre. Avoir les journaux locaux ou régionaux pour avoir les détails, mais parfois, ils vous donnent du code que vous ne pouvez pas déchiffrer si vous n'aviez pas l'un et l'autre. D'où l'idée des trois sources qui se complètent et qui se surajoutent.
Et je parlais de romans au début de romans quand on lit les histoires, mais c'est parfois du conte. Par exemple, une histoire trouvée dans la presse indienne, cette petite fille qui se retrouve bonne à tout faire dans la famille d'un écrivain, qui prend un livre... Vous vous en souvenez de cette histoire,
Marc Cravette? Tout à fait, oui, bien sûr.
C'est un conte...
Qui au début sait à peine lire, qui va apprendre à lire en époustant des livres dans la bibliothèque de son patron, qui se fait un jour surprendre par le patron alors qu'elle a un livre à la main, et elle pense qu'elle va se faire évidemment jeter, et le patron lui dit « mais vous savez lire ?» et va lui acheter un cahier. Enfin, c'est vrai que c'est presque un conte de fées. La différence avec un conte de fées, c'est que la bonne fée, en l'occurrence, le patron, qui était un universitaire très connu en Inde, a permis à ce livre d'exister, d'être publié. Taslima Nasrin, donc c'est quand même pas rien, a permis à ce livre d'être diffusé dans des langues communes. Et le livre existe aujourd'hui en français.
Oui, puis on est aussi parfois dans le film noir américain. Je pense à l'histoire de Gary Webb, journaliste au Mercury News. En 96, il publie une enquête démontrant comment, dans les années 80, des trafiquants de cocaïne nicaraguayens avaient apporté du crack aux États-Unis pour financer les contrats avec l'aide de la CIA. Enfin, c'est une histoire incroyable. le type se retrouve suicidé avec deux balles dans la tête. Il avait tout le monde contre lui. C'est un roman noir américain.
C'est surtout une histoire terrible. L'histoire de la Contra, parce qu'en fait c'est ça, mais qui date aujourd'hui, a quand même nourri l'un des plus formidables scandales de la vie politique américaine. Près de 20 ans après le Watergate, c'était... Non, 15 ans. C'était autant de la présidence de Ronald, à la fin de la présidence de Ronald Reagan. Donc on s'est aperçu que dans un échange quasiment planétaire où il y avait de la drogue, des armes, les services secrets américains se sont servis en effet de l'importation de drogue aux États-Unis pour financer des achats d'armes pour la Contra, ce que la loi américaine leur interdisait. Et donc Gary Webb est un formidable enquêteur. C'est certainement l'un des plus grands de l'histoire américaine. Comme tout grand enquêteur, évidemment, il devait être passablement paranoïaque et convaincu que, nageant dans le vrai, on ne pouvait pas le contester. Il a certainement commis quelques erreurs dans son enquête. Il est apparu après coup que son enquête est totalement vérifiée. Maintenant, il y a eu des dépositions au Congrès. On sait presque tout sur ce qu'on appelait le Contragate ou l'Iran Contragate, parce que l'Iran était évidemment mêlé dans tout ça. Et Gary Webb avait raison. Et on lui a donné raison trop tard. Et en effet, il s'est suicidé. La thèse des deux balles dans la tête ajouterait un peu romanesque. Il avait peut-être la gâchette un peu lourde, mais il n'y a pas trop de soupçons à ce sujet.
Voilà, c'est-à-dire dans le portrait du jour, 150 histoires pour un tour du monde. Vous regardez l'Euro à la télé, Marc Ravetz. Il y a des histoires quand même.
D'abord, le sport est nourri d'histoires fantastiques. C'est 150 histoires, c'est 150 sur les 600 que nous avions faites ensemble. Il y avait également des histoires de footballeurs. Mais comme les grandes histoires de footballeurs se passent plutôt dans la zone géographique que j'explore le moins, c'est-à-dire l'Europe, pour des raisons simples, c'est que nous avons une excellente revue de presse européenne dans le cadre des Matins de France Culture, donc j'en parle peu. Mais c'est vrai que si j'étais à l'étranger et que j'avais un personnage comme Liliane Thuram, il figurerait là-dedans. Je ne parle que de lui, mais on pourrait parler de bien d'autres.
Attention, c'est toi. C'est la vraie poisse. Hein. Quand ça ne veut pas sourire, ça ne veut pas sourire. Mais De Rossi marque le deuxième but italien, tir dévié. Je ne sais pas par quel Français elle a été dévié, on va le revoir certainement.
Ouais, c'était mardi soir sur M6, M6 qui a battu des records d'audience, 13,2 millions de téléspectateurs, la meilleure audience pour la chaîne depuis sa création et la meilleure audience de l'année 2008, toutes chaînes confondues. Mais M6 n'a jamais fait payer aussi cher ses spots de pub, 150 000 euros les 30 secondes à la mi-temps, selon le Figaro. Mais comment comprendre que de plus en plus de téléspectateurs sont accros au football? Jacques Blozizewski, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et documentaliste, vous êtes l'auteur d'un essai, Le match de foot, aux éditions Apogée. Et
télévisé.
Match de foot télévisé.
Ah oui.
Vous avez raison. Vous avez publié dans Le Monde une chronique. Pour vous, le football télé, on va le voir, est peut-être le nouvel opium du peuple. Et Ludovic Ninet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste sportif et vous inquiétez du niveau de traitement journalistique des matchs de l'Euro. Jacques Blozizewski, le foot télévisé, c'est un nouvel opium du peuple. Ça pourrait être le nouvel opium du peuple.
J'ai soigneusement mis un point d'interrogation parce que...
Là, on ne l'entend pas à l'antenne, à la radio, mais...
C'est une question qui mérite d'être posée à partir du moment où on a du foot en permanence à la télé. C'est-à-dire qu'il faut... se rendre compte que depuis les années 60 ou 70, la quantité de foot diffusé a pris une tournure absolument exponentielle et qu'on voit aujourd'hui, en tout cas on peut voir théoriquement en une semaine sur toutes les chaînes actuellement en France, on peut voir autant de foot qu'en un an dans les années 60 par exemple. Donc notre relation au foot à la télé a complètement changé.
Vous dites ce qui rend accro, c'est la réalisation aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a rendre accro, si on peut parler comme ça, je mettrais quand même quelques bémols, mais enfin, allons-y. Il y a donc la question de la quantité, puisqu'il y a énormément de matchs. Donc, si vous voulez, on a 2 matchs par jour qui nous sont proposés. Donc, la question pour les gens qui aiment le foot, c'est qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent ou ils regardent pas? Comment ils gèrent ça, hein? Et puis, il y a une autre question qui est la question de la réalisation et de l'environnement général du foot dans les médias, qui est que on va de plus en plus vers la polémique. On est sans arrêt dans les polémiques sur l'arbitrage, etc. Et ça se fonde sur le mode de réalisation du foot à la télé, qui remontre de plus en plus les fautes.
Les ralentis.
On a un nombre considérable de ralentis. Et à l'intérieur de ces ralentis, il y en a entre 50 et 120 par match, des ralentis. Hein, ça dépend un peu des chaînes. Et à l'intérieur de ces ralentis, on est sur un pourcentage à peu près de 35-40%, même quelquefois pendant l'Euro, 50% qui sont des fautes. C'est-à-dire qu'on met le téléspectateur en position de juger, quelque part, dans des conditions que je conteste et qui sont discutables et problématiques.
Ludovic Ninet, vous, ce qui vous inquiète, c'est le niveau de traitement journalistique des matchs de l'Euro. On n'est plus dans le journalisme, mais dans le commentaire de spectacle.
Bah oui, c'est vrai que c'est assez inquiétant. Et là, ça a été assez criant mardi soir lors de France-Italie. C'est vrai qu'il y a, on dirait, presque un transfert du journaliste au présentateur qui essaye de promouvoir en fait un spectacle et qui n'est plus du tout en train d'analyser le spectacle sportif, ce qui se passe. Mais il se transforme presque même en supporter. Hein. Mardi soir, il y avait un des deux commentateurs qui avait quand même un maillot de l'équipe de France. A priori, un journaliste doit être assez impartial. Et puis, on en est carrément rentré dans des commentaires qu'on aurait pu imaginer dans les sièges, dans les tribunes, effectivement, sur l'arbitre. Est-ce qu'on est là au micro pour éveiller je sais quel sentiment un peu de bas étage chez le spectateur, ou est-ce qu'on est au contraire là pour décrypter un sport et puis analyser les forces, les faiblesses et de manière assez froide, disons.
Jacques Blozizewski, justement, c'est ce que vous écrivez, il manque au football un travail critique sur le football télévisé.
Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Ludovic. Ça me semble tout à fait essentiel. C'est vrai que les commentaires qu'on a dû subir mardi pendant France-Italie, c'est honteux, quoi.
Mais comment ça se fait qu'on soit comme ça dans le commentaire du spectacle et plus dans le commentaire journalistique
de... Mais parce que, si vous voulez, il n'y a pratiquement pas de travail critique sur le foot télévisé. Mmh. Ça rejoint ce que vous venez de dire. On a
Pourquoi
une presse sportive, l'équipe et France Football, pour ne pas les nommer, mais ils sont nommés dans le monde de toute façon, qui ne critiquent jamais la télévision. La télévision a un pouvoir absolument gigantesque aujourd'hui dans
pourtant,
le sport.
Pourtant, dans l'équipe, il y a un travail d'enquête qui est remarquable hein, sur le football, sur
pas
le
sur,
sport.
Pas sur la réalisation, pas sur les commentaires du foot. Ça, je le trouve quasiment jamais. Dans France Football, c'est pareil. Mmh. Donc, à partir du moment où, si vous voulez, il n'y a pas le moins de contre-pouvoir par rapport à la télé, bah, elle roule. Hein. Mmh.
C'est une question d'argent ? De financement, le foot est trop télédépendant, comme vous l'écrivez.
Tout était un peu interdépendant. Ce sont des mondes qui se rejoignent, qui se travaillent, qui n'osent pas se contester, qui sont trop proches. Et on est quelques chercheurs un peu dans notre coin à essayer de faire en sorte. Ou les Cahiers du football, par exemple, ça c'est le seul exemple. Le magazine et site internet, les Cahiers du football, qui font un magnifique travail. Mais c'est tout.
Ludovic Ninet, vous avez travaillé à l'équipe. Hein
ouais, ouais. Moi, je voudrais un petit bémol sur le côté analyse enquête remarquable. Et c'est vrai que ce que Jacques disait, c'est cette histoire d'interaction permanente entre le monde de la presse sportive, c'est un petit monde où tout le monde se connaît. Les gens passent souvent d'un média à un autre, notamment au niveau de l'audiovisuel. Et on ne va pas forcément aller trop critiquer. Par exemple, hier soir, après la retransmission de TF1, les deux consultants, donc Jean-Michel Larquet et Luis Fernandez, sont interrogés sur est-ce que Raymond Domenech doit disparaître ou pas, et en fait l'un et l'autre se prononcent surtout pas, parce que je pense qu'ils sont trop partie prenante en fait de ce monde là pour oser le faire. Et par contre sur M6 un peu plus tard sur l'autre émission, là c'était beaucoup moins langue de bois, il faut bien reconnaître.
L'autre effet dont vous parlez, c'est la peopleisation du football, comme on en parle en politique. La réalisation fait qu'on va s'intéresser à des individus plutôt qu'à un ensemble d'actions.
C'est vrai que le foot, en général, alors là, je ne parle pas simplement du foot télévisé, c'est devenu une partie d'un ensemble, si vous voulez. C'est l'évolution générale du sport, c'est-à-dire que maintenant, on va au stade, on a tout un environnement, on a des écrans géants, on a de la pub, on met l'ambiance, etc. Donc c'est vraiment, le sport est en train de devenir une partie de quelque chose de plus vaste, et donc d'une certaine façon, il tend un peu à se diluer dans le processus. Alors c'est vrai qu'au niveau de la télévision, les caméras vont chercher dans les tribunes les gens qui d'ailleurs se griment avant pour apparaître, vu, etc. Donc il y a tout un jeu de miroir, si vous voulez, qui se développe beaucoup.
Et ça a des conséquences, Ludovic Ninet, sur la façon dont on joue au football ?
Sur la façon dont on joue, je ne pense pas, ou à de rares exceptions, peut-être un joueur qui a vraiment envie de marquer son but, ce genre de choses. Mais c'est vrai que sur la perception du public, le phénomène de starisation, il est quand même très important. Et là, c'est le foot, mais le sport en règle générale, où aujourd'hui, on se rend compte qu'un sportif, c'est l'exemple suprême presque d'épanouissement dans la société qu'on a aujourd'hui. Hein. C'est quelqu'un qui a réussi au niveau financier, quelqu'un qui s'est souvent sorti d'un milieu assez modeste, donc il s'extrait de la masse. Et je pense que ça fait beaucoup rêver les gens. Et les médias accentuent énormément ce phénomène. Et hier soir, par exemple, encore une fois, sur l'émission d'M6, à un moment, ils cherchaient les raisons de l'échec, et un journaliste dit « Bon, les médias, on a aussi notre part, parce qu'on a monté en épingle des joueurs qui n'étaient peut-être pas complètement au niveau. » Il était le seul à le dire, et les autres ont dit « Oui, mais bon, c'est notre métier aussi de faire ça, on a toujours fait ça. » Et là, je pense que le monde des médias manque un peu d'autocritique par rapport à ça.
Marc Ravette, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, non, je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur... je ne parlerai pas d'opium du peuple, mais non, il est vrai que M6 recrutant Thierry Roland, pour le dire correctement, c'était un effet de marketing évident. Si Thierry Roland aujourd'hui, qui n'en était pas à sa première observation sur l'arbitrage, autant que je me souvienne, on disait mais c'est insupportable, on le règle de la carte, on le met à la porte, vous auriez certainement une manifestation de masse en France entière pour dire rendez-nous Thierry Roland. Je n'ai pas de jugement là-dessus, mais c'est un fait. Mais je voulais vous poser une question sur la pipalisation, la starification. Moi, j'ai plutôt le sentiment que le foot est certainement de tous les sports celui dans lequel les gens peuvent le plus facilement se reconnaître et s'identifier. En gros, le monde au nord de la Loire a joué, jouera, ou a quelqu'un qui joue au foot dans sa famille, ou quand il était petit, on peut jouer au foot. Le basket deviendra ça peut-être, mais en tout cas, ce n'est pas le cas en France. Est-ce que ce n'est pas ça le fond de la chose ? C'est en gros, tout le reste nous échappe, mais dans le foot, au moins, on peut se reconnaître.
Vous avez quelques secondes pour répondre.
Moi, je dirais juste que le foot, en fait, c'est vrai que c'est le sport universel par excellence, parce que n'importe qui peut y jouer très facilement. Bon, après, il y a quand même le phénomène de tout le sport qui est mis en scène par la télévision et qui fait que les gens aussi sont fans de ce sport. Et au niveau des présentateurs, je pense que là, par contre, c'est un niveau de... On a déshabitué peut-être le téléspectateur à un certain niveau de critique.
Merci à tous les trois. Je voulais juste rappeler le titre du livre de Jacques Blozizewski, Le match du football télévisé, aux éditions de l'Apogée, et Marc Cravette, Portrait du jour, 150 histoires pour un tour de monde. Et demain, le festival
Sunnyside of the Dock.
En français, le côté ensoleillé du documentaire
à la Rochelle ce week-end. Merci Colombe, à demain.